Bonjour, Régis Coulanges. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Et nous y sommes. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous et bonne année à tous.
Alors aujourd'hui, eh bien, vous êtes tout seul. Il n'y a pas Martine.
Voilà, je suis tout seul et donc on n'a pas fait d'émission en décembre. Hein, donc je vais vous dire un peu le bilan des 10 jours pour signer. Vous donner quand même quelques bonnes nouvelles dans cette ambiance un peu triste ou nette là. Les bonnes nouvelles de 2016 quand même, parce qu'il y en a eu. Et puis on va parler bien sûr des réfugiés. On va aussi parler des projets de Donald Trump qui nous font beaucoup réagir à Amnesty International et partout dans le monde, beaucoup de citoyens réagissent aussi. Ensuite, je vous parlerai d'un couple de défenseurs des droits humains en Iran et puis des actions d'Amnesty International du groupe de Digne, les actions à venir. Voilà, alors ce bilan des 10 jours pour signer. Eh bien, sur Digne, on a fait quand même assez fort, puisque au lycée Pierre-Gilles de Gênes, l'antenne jeune aidée du groupe dinois d'Amnesty, le jeudi 8 décembre, a obtenu 2000 signatures, ce qui est énorme pour un petit lycée. Alors, beaucoup de lycéens et puis des professeurs, le proviseur aussi, qui était partie prenante de cette opération et qui nous a accueillis vraiment très bien. Voilà, donc on était très contents déjà de ces 2000 signatures le jeudi 8 décembre. Et ensuite, le samedi 10 décembre, le groupe dinois d'Amnesty était à la médiathèque de Digne avec d'autres jeunes, alors ce coup-ci des jeunes du Sacré-Cœur, trois jeunes du Sacré-Cœur. Et on a obtenu à peu près, on a obtenu 892 signatures ce samedi 10 décembre, journée anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Et ça fait un beau montant.
Ça fait un bon montant, oui. Presque 3000 signatures sur Digne, c'était bien. Alors en France, il y a eu 330 activités partout en France, 32 centres d'action. Centres d'action, c'était des lieux où justement on faisait signer les pétitions, mais en même temps, on envoyait des cartes de soutien. Il y avait plusieurs actions en direction de dédicats de la campagne. Et puis, on a obtenu en France 545 453 signatures, ce qui fait presque 100 000 signatures de plus que l'année dernière.
Oh, c'est beau.
Voilà. Donc, ça prend de l'ampleur. Les gens sont sensibles à cette action. Voilà. Et puis dans le monde, on était à 3 372 216 actions. Voilà, donc c'est une opération, j'espère qu'elle va porter ses fruits pour ces 10 cas. On a beaucoup fait parler d'eux et on va continuer un peu à agir pour eux. D'ailleurs, sur le site d'Amnesty, il y a toujours certains des cas qui sont en ligne. Et vous pouvez y aller, signer si vous ne l'avez pas fait. Pour ces personnes. Voilà, alors je vous disais que malgré tout, tout ce qu'on a vécu de difficile en 2016, on a quand même obtenu quelques bonnes nouvelles. C'est vrai que quand on a tendance à dire que c'était une année terrible, et c'était vrai, c'était une année terrible. Mais enfin, grâce à la mobilisation de vous, nous avons tout de même trouvé quelques raisons de nous réjouir. Par exemple, vous nous avez aidé à libérer plus de 650 personnes, soit presque deux par jour, qui étaient détenues injustement, souvent victimes de mauvais traitements. Ensemble, nous avons contribué à modifier la législation dans 40 pays pour la rendre plus favorable aux droits humains. Nous avons amené l'instance mondiale du football à rendre des comptes et réussi à faire condamner des criminels de guerre. Au cours de cette année pleine d'incertitudes, nous avons trouvé une chose dont nous pouvons être certains. L'indignation ne suffit pas. Les choses changent lorsque nous agissons ensemble. Les succès de 10 jours pour signer, hein, depuis 2008, 33 personnes mises en lumière par 10 jours pour signer ont vu leur situation s'améliorer. Quelques exemples, Albert Woodfox aux États-Unis, John Janet en Norvège, Mosé Akatugba au Nigeria, Valentina Rosendu Cantu et Inès Fernandez Ortega au Mexique, Jabar Salavan en Azerbaïdjan, Paraskevi Kokoni en Grèce, Yom Bofa au Cambodge.
Quand vous dites la situation s'améliore, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que où ils ont été libérés, où les tortures sont arrêtées, où ils obtiennent un nouveau procès, voilà. Ce qu'on demandait, quoi, enfin, en fait. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui porte. Hein. On a eu un soutien renouvelé à l'ONU sur la résolution en faveur d'un moratoire sur les exécutions. L'Assemblée générale a adopté à une très large majorité, le 19 décembre 2016, sa sixième résolution demandant un moratoire sur les exécutions en vue de l'abolition de la peine capitale. Sur les 193 États membres de l'ONU, 117 ont voté en faveur de la proposition, seuls 40 États ont voté contre et 31 se sont abstenus. Il y a eu l'accord de paix en Colombie. Maintenant, le vrai travail commence. Le mercredi 30 novembre, le Congrès a ratifié l'accord de paix conclu entre le gouvernement colombien et les FARC, après que l'accord initial a été rejeté à l'issue d'un référendum. Le début d'un nouveau chapitre porteur d'espoir dans l'histoire de la Colombie. Cette ratification prépare le terrain à la démobilisation et au désarmement des FARC dans le cadre d'un processus qui se déroulera sur une période de 6 mois. L'accord révisé offre plus de clarté sur un certain nombre de points, notamment sur la forme que prendront les sanctions imposées aux responsables de crimes de droit international. Il force par ailleurs les FARC à livrer leur avoir, ce qui pourrait renforcer le droit des victimes à des réparations. En Afrique du Sud, l'annonce d'une indemnisation pour les victimes de Marikana est un pas en avant vers la justice. Le président a annoncé que le gouvernement était prêt à indemniser les victimes de ce massacre qui a eu lieu donc à Marikana en 2012. C'est un grand pas en avant pour rendre justice aux victimes et à leurs familles, a déclaré Amnesty International. Le président d'Afrique du Sud a également annoncé que certains membres de la police sud-africaine sont inculpés d'accusations pénales pour leur rôle dans l'homicide de ces 44 personnes dans le cadre de ce conflit salarial qui opposait une compagnie minière et ses employés en grève en août 2012. Donc la justice met du temps, mais à force de réclamer, des fois on obtient. Aux États-Unis, la justice du Texas empêche une exécution. Le 2 décembre, la Cour d'appel pénale du Texas a accordé un sursis à John Battaglia, un homme de 61 ans qui devait être exécuté au Texas le 7 décembre. Donc le sursis est destiné à permettre à la Cour d'examiner la question de son aptitude mentale à être exécuté. En France, le devoir de vigilance des multinationales, une loi avant février, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre le 29 novembre. Il ne reste maintenant plus que 2 petites étapes avant son adoption, une lecture au Sénat et une session finale à l'Assemblée nationale. Si la société civile espérait une loi plus ambitieuse, ce texte, qui a connu un parcours législatif mouvementé depuis 3 ans, représente une avancée importante face à l'impunité des multinationales en matière de droits humains et d'environnement. En Gambie, on a eu la libération sous caution d'un responsable de l'opposition. La chercheuse Sabrina Matani, chercheuse d'Amnesty International sur l'Afrique de l'Ouest anglophone, a déclaré « La libération sous caution d'Ousenou Darboé et de 18 autres manifestants pacifiques est un grand moment pour eux, ainsi que pour leurs familles. Nous espérons que cette avancée positive est le signe qu'en temps voulu, ils seront acquittés de toutes les charges. » En Inde, un militant cachemiri des droits humains a été libéré. En Malaisie, une défenseure des droits humains libérée, mais toujours en danger. Elle a été arrêtée le 18 novembre pour avoir organisé un rassemblement en faveur d'élections libres et équitables. Elle a été remise en liberté le 28 novembre, mais risque toujours d'être poursuivie pour avoir exercé ses droits à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association. Au Nicaragua, la police a restitué les véhicules saisis sans motif à une défenseure des droits humains. Voilà quelques-unes des bonnes nouvelles que... et de ce qu'on a obtenu grâce à vous aussi. Voilà, tout ça pour vous dire que tout n'était pas négatif dans cette année difficile.
Est-ce que j'ai bien entendu 650 personnes libérées dans l'année 2016?
Oui.
C'est énorme.
Hein? Oui, c'est énorme. Oui. Ça fait 2 par jour en moyenne, oui. Alors partout dans le monde, c'est des cas, si vous voulez, que... Par exemple, chaque membre d'Amnesty ne s'est pas occupé de ces 650 cas. Hein. Ça a été, c'est au niveau mondial. Hein. Mais bon, c'est important et ça montre que l'action d'Amnesty
Est efficace. Hein. Efficace, ouais.
Et bravo. Elle le sera de plus en plus si on est rejoint par un grand nombre de personnes. Parce que c'est vrai que de plus en plus, je crois à la société civile... plus qu'au gouvernement.
Ah bon? Comment se fait-il?
Voilà, alors ben justement, par rapport à la société, j'ai pensé mettre la chanson de Souchon, Full Sentimental,
allez,
pour
on
débuter
l'écoute.
Cette année.
Voilà, on l'écoute, merci.
J'adore.
T'aimes bien?
Ah oui, beaucoup.
Oh là là, la vie en bleu.
Le rose qu'on nous propose
d'avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autres choses.
Non, mais tu la connais aussi, toi.
Ah, et on nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, dérision de nous.
Full sentimental, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles et voir que les choses pas commerciales. Full sentimental, il faut voir comment on parle, comment on parle.
De ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner dès qu'on est né. Avec soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle.
Claudia Schiffer, on nous a le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la moquette.
Du ciel dévore un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles. Mieux un rêve.
Foule sentimentale, soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle.
mental. On a soif.
Comment on nous parle, Régis Coulanges.
Voilà. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de la grande campagne mondiale d'Amnesty sur l'accueil des réfugiés, qui s'appelle I Welcome, et qui s'oppose, cette campagne s'oppose violemment à beaucoup de gouvernements actuels et récents. Alors, quel est l'objectif d'Amnesty dans cette campagne? C'est d'ouvrir des voies légales et sûres pour les réfugiés, ne pas conclure d'accords qui vise à maintenir les réfugiés à distance et renforcer la protection des réfugiés. Alors, je vais vous passer là un petit épisode qui s'appelle « Voir pour comprendre ». C'est raconté par un vidéaste qui s'appelle Usul et qui explique la crise des réfugiés, explique aussi les différents termes utilisés, les différences entre eux, et puis expose les solutions possibles à cette crise.
Voir pour comprendre les réfugiés. Chaque jour dans le monde, des milliers de personnes prennent la décision la plus difficile de leur existence. Partir de chez elles pour fuir la guerre, la torture, les persécutions, l'extrême pauvreté, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Plus de 244 millions de personnes ne vivent pas dans leur pays de naissance, soit environ 3% de la population mondiale. Qu'on les appelle migrants, réfugiés ou demandeurs d'asile, derrière ces mots, les réalités sont multiples. Et trop souvent, ces hommes, ces femmes et ces enfants forcés de fuir ne sont bienvenus nulle part. Pour y voir plus clair, il faut commencer par quelques définitions. Qu'est-ce qu'un migrant ? C'est une personne qui se déplace d'un pays à un autre. Un migrant est en situation régulière lorsqu'il possède un permis de travail ou de résidence, ou en situation irrégulière quand les autorités du pays où il souhaite résider ne lui délivrent aucune autorisation. Qu'est-ce qu'un réfugié ? C'est une personne qui fuit la violence ou la persécution dans son pays, ce qui la contraint à demander la protection d'un autre État. Qu'est-ce qu'un demandeur d'asile ? C'est une personne qui a quitté son pays en quête de la protection d'un autre État et qui n'a pas encore obtenu de réponse. Il faut aussi clarifier la notion de droit d'asile. Le droit international dit que c'est le dernier des droits lorsque tous les autres ont été bafoués. Une sorte de rempart contre l'arbitraire et l'inhumain. C'est-à-dire... La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 reconnaît que le droit d'asile est un droit universel et inconditionnel. La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés datant de 1951 va plus loin en interdisant de renvoyer les réfugiés dans des pays où ils risquent d'être persécutés. C'est le principe de non-refoulement. Donc, afin de respecter ces principes, les États doivent garantir la possibilité de solliciter l'asile. Les États sont responsables des conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Concrètement, ça veut dire qu'ils ont l'obligation de garantir à tous, sans discrimination, les droits humains fondamentaux. Se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner, le droit d'aller à l'école pour les enfants. Les demandeurs d'asile doivent être informés, dans une langue qu'ils comprennent, des services dont ils peuvent bénéficier. Et vraiment, pas seulement en théorie. Les personnes reconnues réfugiées doivent impérativement être protégées par l'État qui les accueille, en attendant de pouvoir rentrer chez elles, si les conditions sont un jour réunies. Lorsque les situations de conflit ou de violation des droits humains dans les pays d'origine se prolongent, les réfugiés doivent être en mesure de reconstruire leur vie dans le pays d'accueil et avoir la possibilité d'en acquérir la nationalité s'ils le souhaitent. En réalité, le respect de ces droits se heurte à la fameuse souveraineté des États, c'est-à-dire leur droit à eux de faire ce qu'ils veulent au nom de leur indépendance. Alors oui, la majorité des États s'accordent sur la nécessité de protéger les réfugiés et sur les valeurs humaines qui entourent l'asile. Mais une fois que ça c'est dit... Ils sont loin d'assumer leurs responsabilités. Il faut dire que la Convention de 1951 n'impose rien pour respecter ces principes. Du coup, les États en profitent pour mettre en place des procédures insuffisantes ou carrément restrictives qui n'offrent pas aux réfugiés la protection attendue. L'une des méthodes les plus efficaces, c'est l'amalgame qui permet de refouler les réfugiés sous couvert de politiques d'immigration. L'autre méthode, c'est une mauvaise volonté, brutale et inhumaine. Fermeture des frontières, absence de procédures accessibles à tous, conditions d'accueil inacceptables, les politiques de dissuasion de certains gouvernements et l'absence d'un vrai système de solidarité menacent sérieusement le droit d'asile. C'est comme ça que l'Australie a transféré de force des réfugiés à Nauru, ou que l'Union européenne les maltraite en voulant les renvoyer en Turquie, depuis l'accord passé en mars 2016. L'Union européenne n'a vraiment pas à être fière de sa politique. Elle fait le choix très clair du contrôle plutôt que de la protection. Opérations conjointes aux frontières grecques, surveillance de la Méditerranée, financement des programmes nationaux de contrôle des frontières ou coopération avec la Libye, ce n'est pas beau à voir. Et ça se passe comment, en vrai, quand on est réfugié ? Dans de nombreux pays, les conditions d'accueil des demandeurs sont déplorables, voire inexistantes. Certains sont maintenus en détention jusqu'à ce qu'ils soient reconnus réfugiés ou renvoyés. D'autres sont victimes de discrimination ou de violences orchestrées ou tolérées par les autorités. Réfugiés au Liban, en Turquie, en Jordanie, en Égypte, en Irak, les millions de personnes qui ont fui la guerre en Syrie vivent dans des conditions extrêmement dures. Mariage forcé, travail des enfants, accès insuffisant aux denrées de base ou aux soins médicaux, leur situation est insupportable. Des milliers de personnes qui partent d'Amérique centrale et traversent le Mexique sont enlevées, tuées et violées chaque année. Il faut bien comprendre que sans droit de passage, il n'y a pas de droit d'asile possible. Le fait d'empêcher des gens de traverser une frontière est une violation du principe de non-refoulement. On ne va pas se voiler la face, empêcher quelqu'un de fuir revient à se rendre complice des menaces qu'elle subit dans son pays. Aux abords de l'Union européenne, de nombreux réfugiés n'atteignent même pas la terre ferme, car le durcissement de la forteresse Europe et l'absence de voies sûres et légales ne leur laissent comme solution que des traversées mortelles sur des bateaux bondés et en très mauvais état. En France, plusieurs milliers de réfugiés vivent dans des campements de fortune ou des squats. Les démarches administratives pour obtenir le statut de réfugié sont trop souvent compliquées. Affaiblis par les années de calvaire, mal en point psychologiquement, logés dans des conditions insalubres, craignant en permanence pour leur sécurité et celle de leur famille, les personnes qui se lancent dans ce processus partent perdantes d'avance. Le constat est donc accablant. Il n'existe aucun continent où ce fameux droit d'asile, dernier rempart contre l'arbitraire et l'inhumain, est respecté. Cela donne l'impression que les réfugiés n'ont aucun droit et qu'ils sont un danger. Il n'est plus question d'hommes, de femmes, d'enfants en souffrance, mais d'un phénomène effrayant qu'il faudrait gérer et éradiquer. Inévitablement, la peur prend le pas sur la solidarité avec son cortège de violence, de racisme et de discrimination. Déshumanisés, ces hommes, ces femmes et ces enfants pour qui l'asile est l'ultime rempart contre la persécution perdent leur dignité. La façon dont les questions de migration sont présentées par les responsables politiques et les médias influence notre regard sur les réfugiés. Ces derniers sont souvent pris comme boucs émissaires et désignés comme des clandestins, des resquilleurs, voire des envahisseurs exploitant la générosité des pays d'accueil. Il est question de flux, de flots, de vagues de réfugiés. Les États européens, notamment, entretiennent le spectre de l'invasion et mettent en avant les difficultés et le coût engendré par les afflux massifs. Et ça va plus loin. En plus d'être soupçonnés d'abuser du système, les réfugiés représenteraient, selon certaines déclarations des États, une menace pour la sécurité nationale. Parmi les réfugiés se trouveraient potentiellement des criminels, et les États devraient s'en protéger. Pourtant, contrairement aux idées reçues sur l'envahissement de l'Europe, par exemple, il faut savoir que les principaux mouvements de réfugiés ne vont pas des pays du Sud vers des pays du Nord. La majorité des réfugiés fuient dans les pays voisins, principalement des pays en développement. C'est comme ça que le plus grand pays d'accueil est la Turquie. Et puis, en y regardant de plus près, on voit bien que les personnes qui sollicitent l'asile demandent ce que l'on demanderait tous. Elles demandent simplement de pouvoir vivre en sécurité, regarder à nouveau devant elles, voir grandir leurs enfants sans avoir peur de ce qui peut leur arriver. Ni envahisseurs ni criminels, juste des personnes qui ont l'espoir d'une vie normale et qui comptent sur la solidarité entre êtres humains. Car oui, protéger les réfugiés et respecter le droit d'asile, c'est avant tout et seulement une question d'humanité et de respect. Les frontières doivent rester ouvertes aux personnes en demande de protection. Aucun argument économique, politique ou sécuritaire ne peut justifier de refouler ou de renvoyer une personne là où elle risque d'être torturée, persécutée ou assassinée. Car il faut aussi se rappeler que même si le nombre de réfugiés à travers le monde a atteint de nouveaux sommets historiques, ils ne représentent que 0,3% de la population mondiale. Ce qui signifie que la communauté internationale est tout à fait capable de protéger collectivement cette population en détresse s'il y avait un véritable partage des responsabilités. Hébergement convenable, nourriture, eau, accès aux soins et à l'éducation, le manque de moyens financiers est l'un des principaux obstacles à l'accueil digne et respectueux des réfugiés. C'est pourquoi le principe essentiel à la réalisation des droits de tous les réfugiés est celui du partage des responsabilités. Pour rendre opérationnel ce principe, il faut une aide financière humanitaire plus importante pour les premiers pays d'accueil, afin de leur donner les moyens d'organiser un accueil digne de ce nom. Cela évitera que les enfants travaillent au lieu d'aller à l'école pour aider à subvenir aux besoins de la famille, ou que les jeunes filles soient mariées de force pour ne plus être une charge financière. Plus de confort, de prise en charge, de soins, d'éducation, les réfugiés seront plus enclins à rester dans le premier pays d'accueil, proche du leur, plutôt que de verser de l'argent à des passeurs pour aller, à leurs risques et périls, en traversant par exemple la Méditerranée vers un autre pays. Réinstallation, transfert de réfugiés, voie légale, réunification des familles, le partage de la responsabilité de l'accueil des réfugiés est aussi une pierre angulaire de la solution à la crise. Cela permettra à des personnes très vulnérables, comme des victimes de la torture, des personnes handicapées ou malades, des personnes âgées, des jeunes enfants, des mères seules, de partir dans les pays les mieux adaptés pour les recevoir. Ce sera aussi un moyen de permettre à celles et ceux qui veulent rejoindre des proches dans un pays de le faire sans mettre leur vie en danger. Ce partage de responsabilités peut prendre plusieurs formes, comme un nouveau mécanisme de réinstallation des réfugiés vulnérables, contraignant tous les pays à accepter une proportion de la population mondiale de réfugiés vulnérables. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime en effet qu'environ 1,2 million de personnes sont vulnérables et ont à ce titre besoin d'une réinstallation. Or, le nombre de places de réinstallation proposées ne tourne chaque année qu'autour de 100 000. Cela pourrait aussi passer par un nouveau mécanisme mondial de transfert des prochains réfugiés qui permettrait, en cas de crise soudaine comme celle de la Syrie, de re-répartir, de rééquilibrer l'accueil en fonction des capacités propres à chaque pays. Des solutions existent. Elles sont pragmatiques, de bon sens, et font appel simplement à la solidarité et au partage des responsabilités comme on se doit de le faire dans toutes les familles. Alors pourquoi pas dans la grande famille humaine ? Et d'ailleurs, comme le disait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, où nous allons mourir ensemble comme des idiots.
Donc vous pouvez réécouter ce montage, avec un petit visuel d'ailleurs, sur le site d'amnesty.fr, à la rubrique de la campagne I Welcome. Voilà, c'est
très intéressant, c'est très bien fait.
C'est très bien fait. Hein.
D'ailleurs, je le rediffuserai sur Fréquence Mistral voilà, de temps en temps. Voilà, voir pour comprendre les réfugiés, c'est vrai que c'est intéressant.
Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Et puis, donc, en allant sur le site, vous pouvez donc réécouter cette petite vidéo. Mmh. Et puis, en même temps, on a deux actions en ce moment. Une pétition en ligne sur le fameux accord Union européenne-Turquie qui permet à l'Europe de renvoyer des réfugiés en Turquie. Cet accord ne cesse de rendre la situation des réfugiés de plus en plus difficile. Maintenant, ça fait presque 10 mois que des réfugiés sont pris au piège dans les îles grecques. Et maintenant, c'est l'hiver, la situation devient catastrophique. Personne n'y échappe, des enfants, des personnes âgées, des blessés de guerre. Ils survivent dans le froid. Donc on exige des mesures concrètes en urgence du Premier ministre français et de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, pour que la France accélère son programme de relocalisation des réfugiés depuis la Grèce, pour que la Commission européenne pousse tous les États de l'Union européenne à relocaliser réellement et un grand nombre de réfugiés. Voilà, donc c'est une pétition en ligne à signer en ce moment. Il y en a une autre sur, par rapport aux autorités du Kenya qui ont annoncé leur intention de fermer le camp de Dadaab, qui est le plus grand camp de réfugiés du monde. Autour de 260 000 réfugiés risquent d'être renvoyés en Somalie, un pays déchiré par la guerre. Donc c'est une deuxième pétition dans le cadre de cette campagne. Et puis il y a un message de solidarité à envoyer à Alan et sa sœur Jian, qui sont deux jeunes Kurdes syriens qui souffrent tous deux d'une atrophie musculaire et se déplacent en fauteuil roulant. Après avoir franchi à cheval des relèves montagneux pour gagner la Turquie, ils sont arrivés en Grèce en 2016 avec leur mère et deux de leurs frères et sœurs, espérant parvenir jusqu'en Allemagne, où leur père et leur plus jeune sœur sont arrivés en 2015. Cependant, depuis la frontière nord avec la Macédoine, la frontière nord avec la Macédoine a été fermée aux réfugiés. Donc on nous demande d'écrire un message de soutien ou un dessin pour exprimer notre solidarité avec Alan et Jian et leur famille. Voilà, ce sont deux professeurs, ces deux jeunes, qui continuent de donner des cours aux enfants qui sont bloqués dans les camps en Grèce. Ils ont besoin de notre soutien. Voilà, alors maintenant, nous allons passer un disque une chanson de Renaud, de son dernier disque, une des plus belles d'ailleurs du disque, qui s'appelle « Les mots ». Et l'importance justement des mots, Amnesty, on sait bien aussi que les mots peuvent
sauver.
Sauver. Mmh. Voilà.
On l'écoute.
On écoute.
C'est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau. Mais quand ça vous colle à la peau, putain, qu'est-ce que ça vous tient chaud. Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les maux, ça vous libère de tous les maux. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Poème, chanson, brûlot vous ouvre des mondes plus beaux, des horizons toujours nouveaux qui vous éloignent des troupeaux. Il suffit de quelques mots pour toucher le cœur des marmots, pour apaiser les longs sanglots quand votre vie part à volo, quand votre vie part à volo. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Ceux d'un Brassens, d'un Nougaro, la plume d'un Victor Hugo éclaire ma vie comme un flambeau. Alors gloire à ces héros qui par la magie d'un stylo et parce qu'ils font vivre les mots emmène mon esprit vers le haut, emmène mon esprit vers le haut. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses.
Avec Pour la dignité.
Voilà. Donc, après cette très belle chanson de Renaud qui chante vrai, on va parler maintenant de l'arrivée de Donald Trump qui nous inquiète énormément et à juste titre. Donc, Amnesty, nous allons combattre les projets de Donald Trump qui visent à fermer les frontières des États-Unis. Donc, il a signé plusieurs décrets relatifs à l'immigration, prévoyant notamment l'édification d'un mur à la frontière mexicaine, la construction de nouveaux centres de détention et la suppression des financements fédéraux accordés aux villes sanctuaires. Nous combattons ce projet avec tous les moyens dont nous disposons. Ce mur reviendrait à dire que les personnes qui viennent de l'étranger, en particulier d'Amérique latine, doivent être craintes et évitées. Or, c'est totalement faux. Les membres et sympathisants d'Amnesty International USA vont demander au Congrès de protéger les personnes en quête d'asile, y compris celles qui fuient des violences en Amérique latine. Nous ne laisserons pas le président Trump créer des camps de réfugiés le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, comme nous l'avons vu en Grèce, en Australie et dans d'autres pays. Nous allons défendre les villes sanctuaires. Ce sont des villes qui aident à protéger les droits humains des personnes, notamment parce qu'elles donnent aux autorités compétentes les moyens de faire leur travail. Ces villes accueillent des migrants irréguliers. Le plus souvent, dans ces villes, les forces de l'ordre locales ne coopèrent pas avec la police fédérale pour identifier des migrants en situation irrégulière en vue de leur expulsion. Les responsables locaux de l'application des lois doivent collaborer avec la population pour protéger sa sécurité et non jouer le rôle d'agent de l'immigration. Notre campagne à l'Welcome protège les droits des réfugiés et des demandeurs d'asile en dénonçant les atteintes aux droits humains et en appelant les gouvernements à assumer leur part de responsabilité dans la prise en charge de cette crise humanitaire. Aux États-Unis, Amnesty International s'efforce de préserver les programmes de réinstallation des réfugiés et l'accès à l'asile à la frontière sud des États-Unis, en particulier face à la pratique impitoyable consistant à arrêter systématiquement les mineurs et leurs mères qui demandent l'asile, ainsi qu'à d'autres pratiques qui compromettent l'accès à la protection. Le Syrie, le Soudan, la Somalie, Donald Trump adopte une liste noire pour empêcher les ressortissants de pays dits sensibles d'entrer aux États-Unis. Amnesty nous demande d'interpeller le président américain sur Twitter, puisqu'il aime bien tweeter. Voilà, et donc aller sur le site d'Amnesty et d'une simple signature, envoyer un tweet au président pour lui dire d'arrêter cette politique contraire aux droits humains. En effet, Donald Trump condamne des milliers de réfugiés à rester sans protection. Cette interdiction se fonde sur des motifs exprimés de façon extrêmement vague dans le décret. Une liste de pays sensibles est établie pour interdire l'accès de leurs ressortissants au sol américain. Selon notre analyse, seront interdites d'entrée des personnes en provenance d'Iran, d'Irak, du Soudan, de Libye, de Somalie, du Yémen, les principaux pays d'origine des réfugiés dans le monde, ceux qui ont vraiment besoin de protection parce qu'ils fuient la guerre. Voilà, donc c'est vraiment très, très inquiétant. C'est très inquiétant aussi sa politique par rapport aux droits des peuples indigènes. Les peuples qui, d'ailleurs, sont les premiers à être installés aux États-Unis, hein, puisque l'ensemble, énormément de personnes aux États-Unis sont en fait des migrants, hein, d'il y a longtemps ou d'il y a quelque temps. Par exemple, le président Trump a signé un décret, puisqu'il en signe tous les jours, autorisant la construction de l'oléoduc Dakota Access, une décision qui ne tient pas compte des inquiétudes exprimées par des populations autochtones sur cette construction. En choisissant de relancer ce projet, le président Trump met en danger l'accès des populations autochtones à une eau salubre et semble indiquer aux Américains qu'il va accorder la priorité aux intérêts des industries extractives plutôt qu'aux droits fondamentaux de la population. Donc ce n'est pas vraiment les intérêts des Américains qu'il va protéger, mais les intérêts des industries extractives. Le gouvernement fédéral devrait obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones concernés par des projets d'infrastructure avant de les approuver. Donc il y a une signature, il y a une pétition à signer. Donc, il s'intitule « Il faut préserver les terres ancestrales des autochtones de Peace Valley au Canada. Afin de respecter les normes internationales relatives aux droits humains, le président doit annuler immédiatement le décret qu'il a signé et respecter la décision du service du génie de l'armée américaine d'entreprendre une étude d'impact environnemental sur l'oléoduc Dakota Access. Il doit également s'engager à respecter le droit de manifester, notamment à Standing Rock, et veiller à ce que le ministère de la Justice ouvre une enquête sur la force excessive dont les autorités sont accusées d'avoir fait usage contre des personnes opposées au projet d'oléoduc. Notre organisation avait déjà envoyé des observateurs des droits humains à 4 reprises à Standing Rock et s'est déjà déclarée vivement préoccupée par les violations du droit de manifester pacifiquement. Voilà, donc on va avoir beaucoup, beaucoup de travail à faire avec ce nouveau président des États-Unis. On va maintenant passer une petite musique de Moustaki en Méditerranée, qui parle d'une Méditerranée qui est toujours d'actualité, hein, puisque la chanson est déjà ancienne.
Dans ce bassin où jouent des enfants aux yeux noirs, il y a 3 continents et des siècles d'histoire. Des prophètes, des dieux, le Messie en personne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a l'odeur du sang qui flotte sur ses rives et des pays meurtris comme autant de plaies vives. Des îles barbelées, des murs qui emprisonnent. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a des oliviers qui meurent sous les bombes. Là où est apparue la première colombe, des peuples oubliés que la guerre moissonne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Dans ce bassin je jouais lorsque j'étais enfant. J'avais les pieds dans l'eau, je respirais le vent. Mes compagnons de jeu sont devenus des hommes. Les frères de ceux-là que le monde abandonne en Méditerranée. Le ciel est endeuillé par-dessus l'acropole et liberté ne se dit plus en espagnol. On peut toujours rêver d'Athènes et Barcelone. Il reste un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée.
Ça fait du bien d'entendre Georges Moustaki.
Oui, très belle chanson aussi. Voilà, nous partons maintenant en Iran. Amnesty International soutient énormément les défenseurs des droits humains. Et en Iran, il y a notamment un couple de défenseurs des droits humains qui sont harcelés et emprisonnés. Alors, il s'agit de Gorolk Ebrahimi Irae, qui est une défenseuse des droits humains, écrivaine iranienne, qui a été condamnée à 6 ans d'emprisonnement pour avoir écrit une fiction sur la pratique de la lapidation. Elle vient à nouveau d'être arrêtée alors qu'elle était en route vers l'hôpital pour rendre visite à Arash Sadeghi, son mari. Elle bénéficiait depuis le 3 janvier d'une autorisation temporaire de sortie dans l'attente du réexamen judiciaire par la Cour suprême en Iran de sa peine d'emprisonnement, imposée pour avoir écrit cette fiction. Voilà, donc elle va continuer à purger sa peine de 6 ans de prison pour plusieurs chefs d'inculpation, dont atteinte aux valeurs sacrées de l'islam. Son époux purge depuis juin 2016 une peine de 15 ans d'emprisonnement à la prison d'Evin pour avoir mené des activités pacifiques en faveur des droits humains. Voilà, alors cette peine de cette femme et de son mari qui, à cause de leur travail pacifique en faveur des droits humains, avait été attribué à la 33e chambre de la Cour suprême pour réexamen. Mais les pasdarans, qui sont en fait les gardiens de la révolution, font obstacle au processus en empêchant le transfert des documents de l'affaire depuis le tribunal révolutionnaire de Téhéran. Les Pasdaran continuent d'infliger des douleurs et de la souffrance à Arache en lui refusant l'accès aux soins médicaux d'urgence. Celui-ci a mené durant 72 jours une grève de la faim entre octobre 2016 et janvier 2017 pour protester contre l'emprisonnement de sa femme. Il a mis fin à la grève de la faim le 3 janvier suite à un tollé international et après que les autorités ont accordé à Golrokh une autorisation temporaire de sortie en lui promettant que celle-ci serait renouvelée jusqu'à ce que son affaire soit réexaminée par la justice. Une promesse qu'ils ont désormais brisée en la réincarcérant le 22 janvier. Donc il y a très peu de temps. Au cours de ces dernières semaines, il a été conduit presque quotidiennement à la clinique de la prison en raison d'hémorragies internes, d'essoufflement et de forts toux. Les médecins disent qu'il souffre d'une grave infection pulmonaire, de problèmes gastro-intestinaux et d'insuffisance rénale et qu'il a besoin d'une longue hospitalisation afin de recevoir des soins médicaux adaptés. Malgré ces mises en garde, les autorités ont refusé de le transférer vers un hôpital. Avant son arrestation dimanche 22 janvier, le ministère public avait déclaré à sa femme que les Pasdaran feraient obstacle au transfert d'Arache vers un hôpital tant qu'elle ne serait pas retournée en prison. La nouvelle arrestation de Golrokh et l'ingérence des Pasdaran dans le processus judiciaire ne sont que le dernier épisode inquiétant du traitement arbitraire et injuste de ce couple de militants par les autorités. Dans un rapport publié en juillet 2016, notre organisation a rassemblé des informations qui montrent que les autorités, et en particulier le bureau du procureur, les autorités carcérales et les agents des renseignements, refusent délibérément et de manière systématique aux prisonniers politiques l'accès aux soins médicaux dont ils ont besoin, dans de nombreux cas par cruauté, dans le but de les intimider et de les punir, ou de leur extorquer des aveux ou des déclarations de repentir. Voilà, donc si vous voulez plus de renseignements, allez sur le site amnesty.fr et vous verrez le cas de ces deux jeunes défenseurs des droits humains emprisonnés et qui ont besoin de soins et de notre soutien. Bon alors, nous allons un petit peu parler des actions à venir du groupe dinois. Alors déjà demain, mardi 31 janvier, c'est la réunion du groupe à 18h dans une des salles des associations de la mairie, entrée à droite de l'atrium. Voilà, vous pouvez venir, hein, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir voir comment ça se passe. Donc à cette réunion, il y aura la présence de 3 lycéens du Sacré-Cœur, parmi les 5 qui ont accepté de consacrer du temps pour Amnesty International et la défense des droits humains. Et il y aura aussi une nouvelle militante, là, qui c'était une sympathisante qui vient de prendre sa retraite et qui a décidé de venir nous rejoindre. Donc on est très contents parce qu'on a besoin d'être nombreux pour faire nos actions. Et... Voilà. Ensuite, il est prévu des interventions au lycée Alexandre Davinel. On a mis une exposition sur les actions urgentes au CDI. Et donc, la responsable du CDI doit être en train de contacter les professeurs pour voir s'il y en a qui sont intéressés. Et ensuite, nous devrions intervenir pour leur parler de notre ONG, International de défense des droits humains.
Donc ça, c'est expo visible au CDI de...
Voilà, au CDI d'Alexandra Davinel. D'accord. Voilà, et je pense que courant février, on risque d'avoir des interventions pour des classes à la demande des professeurs, voilà, pour leur expliquer un petit peu la façon dont Amnesty fonctionne, le travail, les personnes qu'on défend, voilà. Et puis leur montrer aussi que, comme leurs collègues lycéens du Pierre-Gilles de Gênes, ils peuvent aussi s'engager, signer des pétitions, parler d'Amnesty à leurs amis, etc. Ensuite, en mars, mais donc j'en reparlerai le mois prochain, on va organiser le festival au cinéma pour les droits humains. Alors, on a déjà prévu une projection d'un film qui s'appelle « À court d'enfants » au lycée Pierre-Gilles de Gênes le lundi 6 mars. Et le 9 mars, on fera... et un peu plus tard, on fera un débat. Donc, ce film « À court d'enfants », C'est l'histoire, on en a parlé récemment, l'histoire de ces enfants de l'île de la Réunion qui, dans les années 60-70, ont été volés pratiquement à leur famille pour aller repeupler des départements français comme la Creuse, par exemple, ou la Corrèze.
C'est incroyable, ça, encore.
Ah oui, c'est incroyable. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Alors maintenant, on ferme les frontières, mais là, on... au lieu d'aider les familles à subvenir aux besoins de leurs enfants, on leur a pris leurs enfants et envoyé en France pour repeupler les campagnes françaises. Voilà, c'est quelque chose qui est très peu connu. On en a parlé récemment parce qu'il y a une enquête et il y a justement ces anciens enfants qui sont maintenant des adultes et qui veulent retrouver leurs racines. Donc, ils font des demandes, notamment de billets d'avion pour aller à la Réunion et recevoir et retrouver et trouver leur famille. Voilà, alors pour certains, ça s'est relativement bien passé. Pour d'autres, ça a été dramatique. Certains se sont suicidés. Mais tous ont vécu avec cette douleur, cette déchirure d'avoir été comme ça, arrachés à leur famille. Voilà, et puis on prévoit le jeudi 9 mars au Ciné-Étoile un ciné-débat autour de la comédie qui s'appelle Bienvenue. Et on pense donc faire ce ciné-débat avec d'autres associations. Alors le Secours catholique a déjà dit oui, le réseau Éducation sans frontières aussi. On espère peut-être le témoignage de migrants qui sont à Champtercier et puis d'autres associations, le Secours populaire, je pense, la Ligue des droits de l'homme.
Donc le 9 mars,
voilà,
ciné-débat.
Le 9 mars, ciné-débat, ça sera à 18h, à partir de 18h15. Autour du film Bienvenue, qui est une comédie justement sur l'accueil des migrants. Hein. Donc c'est bien parce que c'est un film qui traite des problèmes, mais de façon pas trop plombante, entre guillemets, hein, en montrant justement toute la richesse que peuvent apporter ces migrants. Hein. Et c'est vrai que tous les gens qui s'en occupent le disent. Hein. C'est pas la peur, mais... Au contraire, il y a des vrais échanges et un partage de richesses. Ça, c'est loin de tout ce qu'on entend à la télévision.
Ce sera aussi une étoile ?
Ce sera aussi une étoile, oui. Donc on en reparlera la prochaine fois avec un peu plus de précision. Mais déjà, retenez cette date. Jeudi 9 mars, c'est ouvert à tout le monde, au Ciné-Étoile. Un cinéma... une comédie, Bienvenue, et puis un débat avec d'autres associations et Amnesty International. Voilà, donc on va terminer cette émission avec une autre chanson du dernier disque de Renaud. Et donc à très bientôt, et n'hésitez pas à aller sur le site amnesty.fr pour vous renseigner, signer nos pétitions, réécouter... le petit montage sur les migrants et les réfugiés. Voilà.
Au revoir Régis, merci encore pour cette belle émission. Elle sera en ligne très très vite sur notre site Fréquence Mistral pour la réécouter en entier. Au revoir, merci, on écoute ton chrono hyper cachère.
C'était un petit endroit pépère, tout près du métro Saint-Mandé, qui vendait des produits cachers pour les habitants du quartier. Un individu cagoulé, suintant la haine de tous les ports, armé comme un fourgon blindé, est venu pour semer la mort. Soudain, au magasin cachère, ce fut l'enfer. Ce fut l'enfer. Il a tiré à tour de bras, avec de la haine plein les yeux, surtout ceux qui portaient kippa, sur les enfants, sur les petits vieux. Certains pleuraient les bras en l'air, d'autres se cachaient où ils pouvaient. Le sang glacé, c'était la guerre, tout près du métro Saint-Mandé. Et dans le magasin cachère, c'était l'enfer, c'était l'enfer. Mais quelle est cette époque immonde? Nous avons perdu l'essentiel, avec de la peur plein le monde, avec de la haine plein le ciel. Qu'il repose à Jérusalem, sur la terre de leur père, au soleil d'Israël. Je veux leur dédier ce poème, leur dire qu'ils nous sont chers, qu'on n'oubliera jamais. Je veux leur dédier ce poème, leur dire qu'ils nous sont chers, qu'on n'oubliera jamais.
Thank you.